5 FM.
Mais regardez vos montres à gousset et autres téléphones portables. Radio G, il est exactement 20h. Et bienvenue Stéphane Corbin, Quasar on the Air, l'émission de Quasar, le centre lesbien, gay, bi, trans et intersexe plus d'Angers et du Maine-et-Loire de 20h à 21h, tous les deuxièmes jeudis ou plus exactement tous les 15 jours sur Radio G 101.5. On vous espère en pleine forme, on espère que vous avez bien profité et nous pendant cette heure, eh bien, nous allons avoir un thème conducteur autour d'un documentaire signé Quasar d'il y a déjà quelques années qui s'appelle Enfant de malheur et qui va être projeté lundi prochain aux Folies Angevines. Nous allons rencontrer son réalisateur et puis également une partie de l'équipe du pôle droit des étrangers de Quasar et puis aussi deux demandeurs d'asile qui vont témoigner et nous expliquer leur parcours durant cette émission. Donc autant vous dire qu'on va se taper sur les jambes toute l'après-midi et toute l'émission, c'est bien clair. Et puis aussi dans le régime des bonnes nouvelles, quand on apprend que le RN aujourd'hui a demandé à présider les commissions sur l'antisémitisme et le sida, on a vraiment l'impression d'être cul par-dessus tête et évidemment il n'en est certainement pas question pour que ce parti xénophobe puisse régler ses comptes et se redorer la pilule aux yeux de l'opinion publique. Et nous serons là pour y veiller particulièrement. Et c'est l'heure, comme à chaque fois, et avec plaisir, de ne sera du reste, d'ouvrir l'agenda. L'agenda de Quasar pour ces 15 prochains jours, et même un petit peu au-delà, pour que vous puissiez prendre vos marques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'agenda si on feuillette les pages? Eh bien, il y a les permanences. Chaque samedi, de 17h à 19h, il y a les permanences où vous pouvez venir. Bah, finalement, allez, Jean-Luc, tu nous expliques, comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Dis-nous.
On m'entend là?
Ah bah.
Buenas tardes, Angers. Oui, bien, nous sommes ouverts, les portes, grandes ouvertes, notre cœur aussi, tous les samedis de 17h à 19h. Une petite équipe, mais une petite équipe chaleureuse. Vous pouvez venir si vous avez des questions, si vous avez envie d'une boisson chaude ou fraîche, hein, aussi. Une petite madeleine, on en a encore, Stéphane ne les a pas toutes bouffées. Et donc, vous pouvez passer et nous serons là pour vous répondre, vous accueillir, vous renseigner.
Ouais, je me suis fait engueuler ce matin parce que j'ai offert des madeleines à un groupe d'éducateurs spécialisés et de psychologues que nous recevions pour une formation. Ils en ont mangé 3 en tout et pour tout.
Donc. C'était mes madeleines.
Bon, vous voyez l'ambiance, permanence 17h-19h, les samedis 12, 19 et 26 novembre, rien que pour le mois de novembre. À noter sur l'agenda aussi, samedi 12 novembre prochain donc, à 13h30, c'est la sortie visite de l'expo Gravity à la collégiale Saint-Martin à Angers par le groupe 15-25 ans. Donc si vous êtes intéressé, vous contactez via la page Facebook ou l'adresse mail que vous trouvez sur le site de Quasar, quasar.fr, et vous trouvez leur mail et vous vous inscrivez et vous y allez surtout dès 13h30. Ce même groupe 15-25, au sortir de l'exposition, se retrouvera à 15h dans les locaux de Quasar, juste avant finalement la permanence générale. Autre temps, nous allons en parler dans quelques instants en détail, donc je ne m'étale pas plus longtemps, lundi 14 novembre, 19h30, le ciné-débat du documentaire « Enfant de malheur » d'Arnaud Villemain, aux Folies Angevines, 6 avenue Montaigne, 49 100 Angers. Attention, on vous expliquera tout à l'heure, il faut s'inscrire sur un lien, mais l'entrée est gratuite si vous vous inscrivez. Samedi 19 novembre, un nouveau numéro de Transat, le groupe d'échange et de parole en non-mixité de la team trans inter, c'est-à-dire que c'est un temps de réunion par et pour les personnes transgenres, à genre non-binaire, en questionnement et intersexe. Ce sont 2 heures de rencontres, de questionnement, de réponses, de contact et puis d'aide entre les personnes concernées, de 15h à 17h. Le dimanche 20 novembre, notez bien la date, c'est la journée internationale du souvenir trans. Les associations angevines vont vous proposer un rassemblement, place du ralliement, et ensuite à une déambulation dans les rues d'Angers. Le samedi 26 novembre, c'est la permanence donc de 15-25 ans qui revient à 15h dans les locaux de Quasar. Jean-Luc, l'adresse de Quasar, c'est un test.
15 ? Oui. Rue de Jérusalem.
Voilà, il s'en souvient.
Le bus, c'est la ligne 1.
La bouche, c'est le numéro 1, c'est ça ?
La bouche. Quindi c'è en italien.
Voilà, c'est ça. Et le bus
uno.
Numéro 1. Voilà, c'est ça. Arrêt.
Oh non, on ne m'en demande pas trop.
Lutin, et on descend la rue Blavière. Voilà.
Il a tout dit. Il est merveilleux. Je vote pour lui comme président.
Et jeudi 8 décembre, je vous le dis tout de suite parce qu'il faut quand même noter ça dans vos petites tablettes. Eh bien, c'est à 19h et c'est le groupe Transparent, toujours par l'équipe de la Team Trans Inter de Quasar. Mais cette fois-ci, ça concerne uniquement les parents, les conjoints, les conjointes, sans les personnes concernées. Ce sont des groupes de parole. Il y en a eu un mardi dernier. C'est toujours absolument captivant et passionnant.
Radio G, 101.5 FM.
Et pour nous mettre dans le bain, voici Topka Sigissa, la chanson du documentaire de Quasar. Plus qu'une devise. Radio G, 101.5.
Né dans un pays qui n'aime pas ce que je fuis la guerre qu'il fait aux incompris. Je me suis réfugié là où l'amour est libre. Liberté, égalité, fraternité, plus qu'une devise. Gênant pour ma mère, j'ai l'empêché de refaire sa vie. Dans ma famille adoptive, j'ai rencontré mon ami. Le même âge, les mêmes envies et le même lit. 10 ans d'histoire à ses côtés, plein d'histoires pour se réjouir. Pour se réjouir. Pour se réjouir. Il a suffi que notre amour ne soit plus à l'abri, pour que pleuve le coup et les insultes jaillissent. Nulle part où aller, étranger dans ma patrie, même plus envie de prier, sans famille et sans appui. Né dans un pays qui me dit satanique, où l'ignorance et la bêtise augmentent les périls. Je me suis réfugié là où l'amour est libre. Liberté, égalité, fraternité, plus qu'une devise. Sur le trottoir qu'ils me servaient de lit, ils m'ont dit « Hey, c'est toi qui couches pas avec les filles. » Alors ils m'ont abusé et torturé cette nuit. Et dans mon sang, ils m'ont laissé une maladie. Cette fois j'ai pu me relever, bafoui et meurtri. Tandis que mon ami subissait la haine de sa famille. Alors nous nous sommes retrouvés pour s'évanouir. S'aimer sans être menacé, juste vivre. Juste vivre. Juste vivre. Né dans un pays loin d'être homophile, où tu es un gay, il n'est même pas puni. Je me suis réfugié là où l'amour est libre. Liberté, égalité, fraternité, plus qu'une devise. Des ans à dormir sur des pierres, il me fallait l'argent pour traverser. J'ai dit manger et j'en suis pas fier. Mais j'ai pu m'échapper, enfin espérer arriver seul. Mon ami n'a pas touché terre, même plus de larmes pour le pleurer. Mais reste un petit sac et quelques papiers. En France, je suis venu me refusier. J'ai entendu liberté, égalité, fraternité. Ce n'est que de ça dont j'ai rêvé. Dont je rêve. Dont j'ai toujours rêvé. Liberté. Égalité.
Plus qu'une devise, Topsika sur Radio G. Quasar Anzière ce soir sur un seul thème, le droit d'asile pour les personnes LGBTI+, à travers la diffusion donc du documentaire de Quasar, signé Arnaud Villemain, qui nous a rejoint. Salut Arnaud. C'est mieux que j'ouvre. Bonjour.
Bonsoir.
Voilà.
Bonsoir
à tous. Bon, tu connais bien la radio, je ne te fais pas de dessin. Tu as été toi-même animateur ici même. Alors, c'était pas la même table de mixage, c'était pas la même Ferrari, mais ça se faisait quand même à l'époque.
Ça se faisait, en effet.
Voilà. Alors, on vous a invité. Il y a Bernard qui est là, puis il y a plein de monde aussi. Vous allez les découvrir au fur et à mesure des interventions et des temps que nous allons consacrer. On va commencer, si tu veux bien, par la présentation du documentaire. D'abord, comment est venu l'idée d'un documentaire et pourquoi finalement au sein du PDE, le pôle droit des étrangers de Quasar?
Alors l'idée est venue d'abord des demandeurs d'asile eux-mêmes. Donc Bernard Brault m'en avait parlé quand j'ai rejoint le groupe. Sauf que techniquement, c'était compliqué pour eux, d'une part, et puis il fallait du temps, toute une organisation. Donc il y avait l'envie, mais ça semblait compliqué. Et la personne qui avait pris en charge ce projet, bah, finalement, était moins disponible au moment où on avait les moyens de le faire. Donc j'ai repris l'idée, et donc on a trouvé des demandeurs d'asile, des réfugiés qui avaient été accompagnés par l'association, qui ont accepté de témoigner. Ça a été la chose la plus compliquée parce qu'on souhaitait quand même que les personnes puissent se livrer. Alors au départ, c'était à visage découvert et puis finalement, ça n'a pas été possible. Mais en tout cas, on est sur un documentaire les gens sont pas à contre-jour, de dos, quoi. Voilà, ouais. C'est quelque chose qui est quand même. C'était notre volonté d'avoir vraiment quelque chose qu'on pouvait écouter quelqu'un qui s'exprime sans parasitage. Hein, on n'entend pas les questions qui lui sont posées. D'ailleurs, il y en a eu assez peu. Ce sont des gens qui avaient envie de se livrer. Donc voilà. Donc il a fallu trouver trois personnes qui soient d'accord, qui acceptent l'exercice, qui forcément n'est pas facile. Hein, c'est se livrer, c'est raconter des choses qui sont quand même très difficiles.
Hyper intime et hyper personnel.
Exactement, exactement. Pourquoi moi, en tout cas, j'ai souhaité faire ce film? Parce que quand j'ai rejoint le groupe il y a quelques années, évidemment, j'avais une idée de ce qu'est l'homophobie. Je savais aussi que dans certains pays, celle que les LGBT subissent est bien pire que ce que nous, on peut connaître ici en France. Mais j'étais loin d'imaginer quand même que dans certains pays, on puisse subir on peut le dire, hein, des atrocités, des tortures, parfois même des propres membres de sa famille. Et donc moi, qui suis gay à 50 ans, dans ma petite vie confortable, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable qu'autant de monde puisse subir des choses comme ça et que ça ne se sache pas. Surtout que, enfin voilà, quand on entend parler des demandeurs d'asile, on parle de gens qui souvent fuient des conflits ou pour d'autres raisons, mais en tout cas pour cette raison-là, on en entend rarement parler et il existe assez peu de documents à ce sujet. Alors, je me suis documenté pour faire le film et j'en ai trouvé, mais dans des situations, en tout cas, qui n'étaient pas forcément celles que nous on traite à l'association. Donc voilà pourquoi à Quasar on a souhaité faire ce film en montrant trois témoignages bien différents. Une femme et deux hommes. Alors ils sont tous les trois d'Afrique de l'Ouest, mais du Togo, de la Côte d'Ivoire et de Guinée-Conakry. Ils n'ont pas le même âge, des vies très différentes, mais malheureusement pour eux, ce point commun d'avoir dû fuir leur pays parce qu'ils ont été confrontés à une homophobie qui allait les tuer de toute façon.
Alors on peut se dire une chose tout de suite, parce que le film date de quelle année exactement ?
2019, oui, c'est ça, 2019. Oui.
D'accord, mais il reste toujours d'actualité parce que, au travers des trois personnes qui témoignent, vous retrouvez même encore aujourd'hui des, on va dire, si Bernard, toi, tu veux juste, bonjour Bernard.
Bonjour.
Et tu peux nous dire que, à travers ce film que tu connais bien, on reconnaît encore des trajets de vie, des pérégrinations dangereuses.
Alors bien sûr, malheureusement d'ailleurs, hein, mais effectivement, les témoignages tels que qui sont dans le film, on pourrait les interviewer d'autres demandeuses et demandeurs d'asile LGBT aujourd'hui, on aurait les mêmes témoignages, on aurait les mêmes histoires. Bien sûr, il n'y a pas de différence, c'est toujours la même chose, malheureusement. D'accord.
Et puis à travers, oui. Juste en complément, c'est que ces trois témoins vont aussi expliquer comment ils ont vécu leur procédure ici en France de demande d'asile. Et aujourd'hui, hein, je crois ne pas me tromper, Bernard, en disant que la description qu'ils font de ce qu'ils ont vécu entre 2017 et 2019, hein, puisqu'ils n'ont pas fait leur procédure en même temps, eh ben reste une réalité aujourd'hui. Hein, il y a des petites nuances qui ont été apportées avec les évolutions de la loi, mais ils sont confrontés au même problème aujourd'hui, hein, dans tous les cas.
Techniquement, ça a été réalisé avec du gros matériel en cinéscope.
Alors c'est un peu gênant de répondre à ta question parce que les auditeurs, oui non mais les auditeurs qui auraient envie de découvrir le documentaire risquent de se dire oh là là bah non c'est pas possible. En fait ça a été filmé avec deux iPhones, mais dans des conditions et pour un résultat je pense qui est tout à fait regardable.
Oui. Voilà. Évidemment, hein. Sinon on n'aurait pas osé le proposer ni le présenter.
Je voulais juste rajouter justement que quand on l'a passé devant des professionnels de l'asile il y a quelques temps,
au mois de septembre, Marcel Menet,
il y a une personne qui est intervenue en soulignant la qualité, également la qualité technique du film et également le fait que c'était pas un film misérabiliste, bon, où on pleurnichait, c'était un film vraiment qui donne la réalité des choses, mais avec quand même de l'espérance aussi.
Alors, je disais tout à l'heure qu'on ne va pas se taper les cuisses tout le temps. Ce n'est pas le genre de documentaire facile non plus à regarder. Ce n'est pas larmoyant, mais ça touche profondément. Hein. Enfin, il y a des membres du PDE qui le voient toujours avec beaucoup d'émotion, hein, le film. Hein. Oui, ça, c'est bien clair. Même nous qui le connaissons bien maintenant, sont toujours touchés. Juste un point... dans la minute qui nous reste, Arnaud, qu'en est-il des trois personnes qui témoignent ?
Eh bien, par chance, les trois personnes ont obtenu leur statut. Ça n'a pas été une mince affaire. Ça a été aussi pour l'un d'entre eux, il l'explique, vraiment un parcours très compliqué. Alors, sans rentrer dans le détail, mais voilà, il y a dans cette procédure, hein, il y a des... En fait, on met des bâtons dans les roues des gens qui viennent faire leur demande ici en France sous prétexte qu'ils devraient faire leur demande dans un autre pays. Et ils sont parfois contraints d'attendre 18 mois, pratiquement de manière clandestine, pour ensuite entamer une procédure qui peut durer un an, voire deux ans. Donc pour ces trois témoins, ça se termine bien, fort heureusement, mais ça n'a pas été simple. Ils l'expliquent, ils décrivent ce qu'ils ont vécu, leur peur, leur angoisse, c'est-à-dire qu'après avoir subi l'enfer dans leur pays... Eh bien, pour certains, c'est trois ans d'un autre enfer ici, sur notre territoire.
Alors, on va parler justement de la procédure dans quelques instants avec toi, Arnaud, Bernard Moreau, Jean-Luc Viala, qui faites partie du PDE. Alors, on le dit tout de suite, on est désolé parce que toutes les filles du PDE avaient quelque chose avec couture ce soir. C'est très misogyne, hein, ce que je dis, mais c'est un peu ce qui nous est arrivé. Alors, je vous propose de chanter bon anniversaire à Sophie quand même. Trois, quatre. Joyeux anniversaire, Sophie.
Joyeux anniversaire,
Sophie.
Joyeux anniversaire, Sophie. Joyeux anniversaire.
C'est bien fait pour toi, fallait être là. Bon, ça c'est pour Bernard, c'était ses grandes années où il ravageait les dance floors. À toi aussi, oui. Jean-Luc ? Oui. Voici Vincent McCoy, Van McCoy exactement, The Hustle. Bonne soirée, 20h19, Radio G 101.5, Quasar en Zière, vous ne bougez pas, on parle du pôle droit des étrangers de Quasar, tout de suite après. capitaine, Drôle de Dame ou La Croisière s'amuse?
Non, non, moi, définitivement Drôle de Dame.
Drôle de Dame, oui. Ah, oui. Tu t'identifies à Drôle de Dame?
Ah, ou... totalement, oui, oui. À Bosley, dans Bosley,
ah,
bien sûr.
Ah, ouais, oui, Bosley, oui. C'est ça, oui. Je me disais, ça t'allait beaucoup plus et mieux au teint, finalement. Radio G, Quasar Anzier, vous êtes là avec nous, tranquillement installés, et nous parlons pendant cette heure de l'émission de Quasar, le centre LGBTI plus d'Angers et du Maine-et-Loire, du droit d'asile pour les personnes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes plus, avec l'actualité donc de la diffusion de Enfants de Malheur, lundi prochain, 19h30, au Folies Angevines, 6 avenue Montaigne. Alors, un point très important. Important tout de suite, si vous voulez assister à la projection, c'est totalement gratuit. En revanche, il faut aller sur le site de Quasar, quasar.fr, l'onglet droit des étrangers ou pôle des droits des étrangers, et vous avez un article avec le lien sur lequel vous allez vous inscrire et vous recevez un billet d'entrée tout à fait gratuit. Encore une fois, c'est gratuit. Alors Arnaud, peut-être ce qu'on peut dire, ce qu'on n'a pas précisé, c'est l'intérêt du film à travers la diversité des personnes interviewées. Et Bernard, tu pourrais rajouter par rapport à l'étape de leur procédure. On rappelle les âges à peu près des personnes que tu interviews dans ce film?
Oui, il y a une femme et deux hommes. Donc Sidoine a 45 ans. Elle a quitté le Togo alors qu'elle avait une situation qui était plutôt confortable. Il y a Mike qui a 30 ans, et qui est parti de la Côte d'Ivoire, et puis Issa de Guinée-Conakry, il a été obligé de quitter la Guinée, il avait 26 ans.
D'accord. Et toi, Bernard, tu disais que l'intérêt, finalement, et c'est ce qui est didactique et pédagogique à
oui,
travers
c'est-à-dire
le documentaire.
Que ça illustre bien les différentes étapes de la procédure, hein, c'est-à-dire qu'on a Sidoine qui vient d'obtenir son statut à l'OFPRA, dès l'OFPRA. On a ensuite Mike qui, lui, a échoué à l'OFPRA et qui donc est en procédure CNDA. CNDA, c'est le recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Mm-hmm. Et puis enfin, on a donc...
Issa, qui lui était à ce moment-là donc dans ce qu'on appelle la période Dublin, c'est-à-dire 18 mois d'attente avant de pouvoir faire sa demande auprès de l'OFPRA.
Alors, on dit aussi, parce qu'il n'y a rien à cacher, c'est que tous les prénoms qui sont utilisés, que nous utilisons, ne sont pas leurs vrais prénoms, puisqu'on a le souci particulier à Quasar d'être extrêmement protecteur des personnes qui témoignent, y compris pour les victimes d'homophobie et de transphobie, sauf si la victime, elle, choisi comme c'est le cas dernièrement. Mais on protège les personnes aussi parce que toute leur vie, elles ne seront pas les demandeuses et demandeurs d'asile puisqu'ils pourront ou elles pourront être les réfugiés de demain. On est bien d'accord. Hein.
Absolument. Et mais il faut aussi préciser, par exemple, que Sidoine souhaitait que son visage soit flouté parce qu'elle a aussi des enfants au pays.
Voilà.
Aujourd'hui, on sait bien qu'un documentaire a vite fait de
se retrouver sur les réseaux sociaux,
exactement.
Voilà, YouTube.
Donc,
voilà.
Donc c'était aussi pour protéger ses enfants, et elle explique dans le film pourquoi il faut aussi qu'elle pense à ses enfants restés au pays.
Voilà, encore qu'on précise bien, Arnaud, que le documentaire n'est pas en libre diffusion sur YouTube ou autre part. On fait extrêmement attention
Absolument.
À ça parce qu'il y a quand même des risques pour les personnes. Alors Bernard Moreau, référent du pôle droit des étrangers, la première question que j'avais envie de te poser, est-ce que tu peux nous rappeler d'abord, toi, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la marmite du droit d'asile et des étrangers, puisque tu es un grand connaisseur et fin connaisseur de la situation, et comment est-ce que tout ça est né au sein de Quasar?
Eh bien, tout d'abord, alors personnellement, j'ai commencé à m'investir dans l'accompagnement des migrants, mais pas forcément spécifiquement pour le droit d'asile, autour des années 2005, donc ça commence déjà à dater, de façon, alors c'était pas forcément tous les jours comme maintenant, évidemment, j'avais une activité professionnelle, hein. Et puis Bah, quand je suis arrivé à Quasar, au départ, la question ne se posait pas encore vraiment. Hein. L'arrivée des demandeurs d'asile LGBT en France, c'est très progressif. Hein, et c'est devenu plus important à partir de 2010 environ. Et donc, en 2011, on a des demandeuses et demandeurs d'asile qui ont commencé à frapper à la porte de Quasar. Et la question s'est posée, mais qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Alors moi, j'avais déjà une petite formation dans le juridique, dans le droit du travail. J'étais un militant syndicaliste convaincu et
acharné, disons-le.
Acharné. Voilà. Et en fin de compte, quand on va dans le droit du travail, on va dans le droit. Mmh. Et on sait après manipuler tout cela. Donc le droit des étrangers, qui paraît complexe à beaucoup de gens, moi je me suis trouvé assez à l'aise dans ce droit, dans le CESEDA, le code d'entrée et de séjour des étrangers du droit d'asile.
Oui, parce que quand on a une lecture juridique d'un domaine, on peut le transposer assez facilement à un autre.
Voilà, on a la méthode.
C'est
voilà,
ça, exactement. Tout à fait.
Et donc, progressivement, après, ça a pris de l'importance. Il y a une équipe qui s'est formée, qui s'est étoffée, avec des personnes qui s'y sont mises et puis qui, ont pu eux-mêmes, après, accompagner des demandeuses et demandeurs d'asile. Et aujourd'hui, donc, effectivement, c'est une activité importante dans l'association.
Tu te souviens du premier cas que tu as traité à Quasar ?
Alors, c'était une demandeuse d'asile, et non pas un demandeur d'asile, qui venait de Mauritanie.
Très bien.
Et puis ensuite, il y a eu, dans les tout premiers, un Jamaïcain. C'est très rare en France, les demandeurs d'asile jamaïcains. Ils ont tous eu leur statut, en fait. Hein. Et à l'époque, beaucoup obtenaient leur statut à l'OFPRA. Ça nous change aujourd'hui.
Ça a bien changé, on va dire ça comme ça. Alors, on va détailler un peu comment ça se passe et comment vous bossez les dossiers, Arnaud.
Non mais juste avant cela, puisque tu en parles là, ce serait bien de donner une indication sur l'obtention d'un statut de réfugié, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on entend dans les médias, c'est loin d'être systématique, malheureusement.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 4 demandeurs d'asile sur 5 qui ont un rejet à l'OFPRA. Après, il y a un recours à la CNDA, heureusement, mais au final... Toute procédure, à la fin de la procédure, et tout motif confondu de demande d'asile, il y a un peu plus d'un demandeur d'asile sur 3 qui obtient son statut à la fin de la procédure.
Oui, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le coin.
Contrairement effectivement à ce qu'on dit, c'est très difficile. Et même au niveau européen, la France fait partie des pays où c'est difficile de tenir le statut.
Alors, pour être très clair, on va dire aussi qu'il y a, avant Covid, on était à 80% d'obtention en moyenne, des hauts débats, à l'OFPRA, et puis il restait 20% potentiellement, avec quand même des rejets à la CNDA. Et puis d'un seul coup, paf, il y a eu une modification très sensible, enfin progressive, mais qui a été claire, sur l'OFPRA, le durcissement de l'obtention du statut à l'OFPRA. On va dire que c'est quand même bien politique.
Oui, bien sûr, tout à fait, oui. Et au niveau de la CNDA, c'est également plus difficile qu'auparavant, quand même. Moi, je trouve qu'au niveau de la CNDA, c'est plus compliqué. Alors, il y a pas mal de juges qui ont changé, hein, les plus anciens qui sont partis, les juges plus jeunes qui sont formatés, et donc, c'est plus difficile qu'auparavant.
Alors, je me tourne vers Jean-Luc, t'es un des petits derniers, je n'ai pas dit un des petits jeunes, hein, je ne vais pas exagérer.
Non, j'aime bien petit dernier aussi, petit dernier, parce que ça va faire bientôt 2 ans que j'ai rejoint le PDE, le pôle droit des étrangers.
Toi tu es entré dans ce pôle et qu'est-ce qui t'a...
Je suis entré en retraite en même temps que je suis entré dans le pôle. D'accord. Ça faisait un bout de temps que ça me titillait parce que je voyais bien le boulot excellent que faisaient mes petits camarades et j'avais vraiment envie de participer mais je n'avais pas le temps, l'énergie disponible, donc je ne pouvais pas. Mais je voyais bien, puisque j'assurais les permanences très régulièrement depuis la nuit des temps, depuis le siècle dernier, je suis là, 17h19. À la permanence. Donc je voyais des demandeuses et des demandeurs d'asile qui arrivaient, qui venaient, et certains, lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de monde aux permanences qui pouvaient arriver, une ou deux personnes, certains pouvaient s'épancher et parler de ce qu'ils avaient vécu, et à chaque fois c'était une baffe incroyable que je prenais dans la tête. Et je me disais, merde, il faudrait que je puisse faire quelque chose pour rejoindre l'équipe. Parce que c'est une toute petite équipe, hein, avec des dizaines et des dizaines de dossiers que vraiment Bernard assure comme une bête, je dois dire. C'est mon Dieu, j'ai mis en photo dans ma chambre au-dessus. Je mets une petite bougie devant tous les jours. C'est le seul Dieu que j'ai. Hein. Et vraiment, le pôle assure un max, donne beaucoup. D'écoute. Je ne parle pas de moi, je parle des autres, mais moi aussi, j'essaye de leur arriver un petit peu à la cheville. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le pôle dès que j'ai pris ma retraite. D'accord. Dès le mois de janvier, je suis arrivé, j'ai été formé par Bernard. Ça a été notre cas à toutes et à tous. Hein, donc,
Alors, cette formation acquise vous permet de faire quoi, Arnaud, par exemple, quand vous avez un dossier? C'est quoi on reviendra à Bernard sur les chiffres, avec Bernard sur les chiffres et ainsi de suite, mais vous l'avez vécu comment? Est-ce que finalement, il y a une ligne directrice au sein du pôle droit des étrangers où les uns les unes, puisqu'il y a Sophie aussi, il y a Patrick qui suit les dossiers, Sylvia, elle, va faire les cours de français et le suivi culturel, les sorties, et puis Patrick va faire en plus les cours d'informatique. Comment est-ce que on va dire, quelle est la formule, quelle est la procédure pour aider les personnes dans le stade, par exemple, débutant de l'OFPRA? Est-ce qu'il y a une règle où chacun fait comme il veut, comme il le sent?
Il y a un canevas. Il y a un canevas qu'on doit suivre, mais qu'on suit toutes et tous avec nos propres personnalités, notre propre empathie, nos propres défenses. Mais il y a un canevas, forcément.
Alors, c'est quoi ce canevas?
Et surtout, on s'adapte à la personne que l'on va accompagner dans cette procédure. C'est aussi cela, beaucoup, qui compte. Hein.
Énorme.
Déjà, on essaie d'instaurer un climat de confiance avec la personne que l'on accompagne, puisqu'elle va être obligée de se livrer à nous, puisque l'objectif, c'est de la préparer à l'entretien devant l'officier de protection à l'OFPRA, un entretien qui, normalement, dure pas moins de 3/4 d'heure et qui peut aller jusqu'à 3 heures. Donc, c'est une épreuve pour tous les demandeurs d'asile. Hein. C'est voilà, avec un officier qui, normalement, est dans l'empathie, mais pas toujours. Donc, il faut faire face à toutes ces questions, avoir du répondant, avoir l'attitude que l'officier attend. C'est malheureux, mais on peut le dire comme ça.
Et alors, comment on fait pour les préparer à ça?
Après, je ne sais pas si on peut tout dire, parce qu'il faudrait pas que l'OFPRA nous écoute.
Ah ben oui. C'est-à-dire qu'on fait comme des sortes de répétitions. On les prévient de ce qu'ils vont avoir à subir comme chemin et les interrogatoires. Au début, nous sommes des étrangers les uns pour les autres.
C'est ça.
Donc, ils vont devoir livrer quand même, mine de rien, leur intimité, quoi. C'est pas rien. Et puis, parler, expliquer, pouvoir justifier de son homosexualité. Quand je demande à mon entourage, qui est majoritairement hétéro, de justifier de leur hétérosexualité, sans parler du plan cul qu'ils ont eu le samedi soir, c'est hyper difficile, quoi. Donc, on va leur demander ça. L'officier va leur demander ça. Et nous, on leur demande de justifier aussi ça. Et c'est pas rien. Donc, bon, c'est un long cheminement, mais qui parfois est obligé d'être court, parce que des fois, les délais qu'on a sont très restreints.
Bernard, toi, tu dirais qu'il y a aussi une adaptation culturelle nécessaire?
Oui, bah, tout à fait. C'est-à-dire que les personnes viennent de pays donc avec une culture différente de la nôtre, avec également donc l'influence de religions qui sont parfois extrêmement, enfin très présentes et prégnantes dans certains pays. Hein. Ça joue aussi énormément. On n'emploie pas les mêmes mots. Enfin bon, qu'est-ce que veut dire l'homosexualité dans certains pays?
C'est ça.
Ça ne veut pas dire grand-chose.
Comment est-ce qu'on peut le nommer quand c'est la peine de mort qui est au bout, ou l'emprisonnement?
Oui,
c'est ça la problématique.
Voilà. Il y a aussi, dans un certain nombre de pays, la place de la famille qui est hyper importante et donc ça joue un rôle aussi très important. Moi, je pense à des personnes qui ont éprouvé un sentiment de culpabilité pendant très longtemps parce que la famille, elle avait avait été mise un petit peu comme ça en l'air à cause de la découverte de l'orientation sexuelle. Voilà, bon, des problèmes après de santé de certains membres de la famille, mm-hmm. ou la maman qui est rejetée après par l'époux parce qu'on la rend responsable de l'homosexualité du fils ou de la fille. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont qu'il faut prendre en compte. Voilà.
Alors, dans les personnes que vous suivez à Quasar, quelles sont les proportions Afrique subsaharienne, pays de l'Europe de l'Est, comment est-ce qu'on pourrait dire?
Afrique subsaharienne, c'est quasiment 100%, hein, mm-hmm. en fait. Et c'est pas qu'à Quasar. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de centres LGBT où en fait, les personnes de l'Afrique subsaharienne sont très, très nombreuses. Après, ça dépend des périodes. On a eu une période, il y a déjà pas mal d'années à Quasar, où on avait beaucoup d'Arméniennes et d'Arméniens, par exemple. Ouais. On n'en a plus du tout maintenant.
Ouais.
Voilà.
Les Russes arrivent du fait de la situation dans le pays.
Oui.
Ah, notre rôle aussi, c'est de recentrer le demandeur sur les motifs de sa demande. Et là, par rapport à la Russie, de fuir le contexte actuel ne permettra pas d'obtenir son statut de réfugié parce qu'on est persécuté en tant qu'homosexuel. Il faut recentrer. Et c'est vrai qu'on a des gens qui arrivent chez nous qui sont très éprouvés, des fois par leur périple. Hein, si on est passé par la Libye, on peut avoir envie de raconter les horreurs qu'on a vues ou subies aussi en Libye.
Les horreurs, soyons clairs.
Par exemple... le plus terrible, c'est un jeune qui a été contraint d'enterrer à la suite d'un accident de 4x4 pendant la traversée du désert. Les gens qui les accompagnaient, armés de machettes, les ont obligés à enterrer des blessés qui étaient blessés seulement.
Et encore vivants.
Voilà, donc il a enterré des gens vivants. Je peux vous dire que rien que cette évocation-là, c'était vraiment extrêmement difficile pour lui. Et c'était quelque chose qui... C'était les derniers moments qu'il avait vécu avant d'arriver chez nous. Et il était resté focus là-dessus. Alors que ça, on ne pouvait pas l'évoquer à l'OFPRA. Donc il fallait le recentrer sur ce qu'il avait subi dans son pays. Ben, ce n'est pas toujours facile non plus.
On parle de viol aussi.
De viol, oui. Des viols punitifs pour les femmes.
Correctifs, c'est ça.
Absolument, oui.
D'accord. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fait une petite pause et on revient tout de suite après parce que nous aurons autour de ce micro ou de ces micros dans Quasar en Zier, eh bien, deux demandeurs d'asile qui viendront témoigner et discuter avec nous. Une voix bien particulière, celle de Fishback, presque beau. Je ne parle de personne autour de cette table.
J'ai rien à faire dans le caveau. De l'intendance, tu sais, je repars à zéro, ouais, tu penses, j'enrage de ne plus dire adieu.
Jamais je ne le pense.
Je rêve d'annuler tes adieux. Si je m'en vais tout en haut, mais pour y voir qui, gardez seulement les cœurs de pierre pour la cadence. Je me suis balance. Mon truc à moi, c'est tenir tête. J'ai fait pour ça. J'aime pas trop goûter la défaite. Gâcher la fête, marcher en pas. Et toi, d'abord dans le silence, t'es presque faux. Moi, je m'endormais pour la science. Je chanterai faux. Et si je m'en vais tout en haut, la bourre est marquée.
Je m'en vais tout en haut, la bourrée.
les expériences, c'est pas nouveau.
Artiste à l'organe très remarquable, Fishback, avec ce titre presque beau et une production régulière, album.
Radio G. 101.5 FM.
20h43, Quasar en Zier, l'émission de Quasar, le centre LGBTI+, d'Angers, jusqu'à 21h, une fois... régulièrement, mais on va dire tous les 15 jours, sur cette antenne, en alternance avec une autre émission. Alors, dans cette émission spéciale dédiée au pôle droit des étrangers, nous accueillons deux personnes qui sont demandeuses d'asile, et on va les laisser se présenter. Bonjour. Alors, on va accueillir Oumar pour commencer. Bonjour, Oumar.
Bonjour.
Alors, tu parles bien Stéphane. Près du micro, hein, c'est
vous. Bonjour, Stéphane.
Bonjour, Oumar.
Oui.
Et bonjour, Moussa.
Oui, bonjour, Stéphane.
Alors, vous allez tout nous raconter, au moins ce que vous voulez. Vous savez que vous n'êtes obligé de ne raconter que ce que vous voulez et rien de d'autre que ce que vous voulez, d'accord ? S'il y a des choses intimes que vous ne voulez pas dire, vous ne les dites pas, vous n'êtes obligé de rien. Alors, toi, Oumar, tu as quel âge ?
23 ans.
23.
Oui.
Et puis toi, Moussa ?
22 ans.
22 ans, d'accord. Alors, qui est-ce qui suit Oumar et Moussa au sein du PDE ?
C'est moi.
C'est toi, Bernard, d'accord. Okay. Donc tu les connais particulièrement bien.
Je pense, oui.
D'accord. Alors, Oumar, toi, tu viens de quel pays ?
Je viens de la Guinée-Conakry.
Et toi, Moussa ?
Guinée-Conakry aussi.
Ah d'accord, vous êtes vous vous connaissiez pas du tout avant, on est d'accord.
Non.
Vous avez fait
non.
connaissance ici à
ouais.
Angers.
Ouais.
D'accord. Alors, quel a été votre parcours de la Guinée-Conakry à Angers ? Vous êtes passé par quel pays ? Rapidement, en deux mots, comment est-ce que vous êtes arrivé en France ?
J'ai passé Mali. Algérie, Libye, Italie.
D'accord. Et ça t'a pris combien de temps ?
Bah, presque un an et quelques.
Un an et quelques. Ça veut dire que sur un an et quelques, tu as été bloqué dans certains pays.
Oui.
Et tu as mis du temps pour pouvoir passer à l'étape d'après.
Oui, oui.
Et ça voulait dire quoi ? Pouvoir avoir de l'argent pour payer des passeurs pour,
ouais, pas d'argent, il faut que je travaille.
D'accord.
Ouais,
donc, tu as été obligé de rester dans le pays,
oui.
travailler,
travail, oui.
payer les passeurs
oui.
et faire les traversées.
Oui, oui.
D'accord. Est-ce que ça a été une traversée dangereuse à un moment donné ?
Oui, c'était dangereux.
Tu as craint pour ta vie ?
Oui.
D'accord.
C'était trop dur.
Trop dur.
Oui.
Et toi, Oumar, tu as fait quel voyage ?
Moi, j'ai commencé par la Guinée-Bissau.
Oui.
Et je suis venu au Sénégal, après le Sénégal, le Mali.
Oui.
Après le Mali, l'Algérie, le Maroc, après l'Espagne, après la France.
Et toi aussi, ça a été des combien de temps tu as mis pour arriver ?
Du coup, j'ai pas duré sur Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal, juste un mois.
Oui.
Et le Sénégal, j'ai duré pour le traitement,
oui.
Dû à ce que j'ai subi chez nous.
Oui.
Donc après, je suis venu au Maroc, c'est là où j'ai été bloqué une année et demie.
D'accord. Quand tu parles de traitement, sans entrer dans le détail, un traitement médical.
Oui.
D'accord, ok. Qui t'a fait que maintenant, aujourd'hui, tu vas bien.
Oui, ça va. Voilà,
ça t'est pris en charge et donc aujourd'hui, là... Et vous êtes arrivé à Angers parce que vous aviez des connaissances. Comment est-ce qu'on arrive à Angers quand on vient et quand on fait un si long voyage ?
Ben, du coup, par exemple, moi, c'est juste quand vous rentrez en Espagne,
mm-hmm.
et avec les amis, avec la causerie des amis, vous essayez de demander parce que je ne comprenais pas aussi la langue.
Oui.
Et comme je parle mieux français, je me
D'accord.
suis dit, ben, je vais essayer de me rendre en France. Mais je me posais toujours la question où je dois aller.
D'accord.
Et à partir de certains renseignements, avec les amis avec qui je suis rentré, j'avais un ami là-bas qui m'a dit, bah, moi je pars chez un ami à Angers, et si ça t'intéresse, on peut aller ensemble parce que tu n'as personne.
D'accord.
C'est ainsi qu'il m'a proposé ça, après voilà.
Et toi Moussa?
Moi je connaissais personne.
Oui.
Lorsque j'ai vu mes amis maintenant qui quittaient en Italie, venant en France, après je les suis vus maintenant parce que je ne comprenais pas l'italien.
Ouais.
On nous a proposé de rester là-bas, mais je dis je ne veux pas rester.
D'accord.
J'ai un colonie français, donc je dis je ne veux pas rester là.
D'accord. Et toi, tu maîtrisais tu maîtrisais le français, tu le comprenais en tout cas beaucoup plus facilement que l'italien.
Ouais.
C'est ce que tu nous expliques.
Oui.
Donc c'est vrai que quand on est dans un pays étranger, qu'on ne maîtrise pas la langue, on a plus tendance à aller vers le pays où on maîtrise la langue. Ouais. Et vous êtes arrivé à Angers par ce biais-là, et comment est-ce que... on s'installe, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on est hébergé, on est à la rue ou pas, comment ça se passe?
Ouais, j'étais à la gare, j'ai rencontré quelqu'un là-bas.
Oui.
C'est lui qui m'a envoyé maintenant, celui après maintenant.
D'accord.
Je suis allé maintenant commander à la CVS, française d'Asie.
D'accord. Là, on explique, Bernard?
Oui, alors c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la SPADA, le demandeur d'asile qui arrive en France doit au départ se faire enregistrer dans une structure qui s'appelle la SPADA, et à Angers, elle était gérée avant par CVH, maintenant elle est gérée par France Terre d'Asile.
Nos amis de CVH pour qui nous avions toutes les tendresses et toutes les attentions particulières, c'est bien
tout
ça?
Tout à fait, oui.
Non, mais on rigole, mais on rigolait moins à l'époque, puisqu'on rappelle qu'on s'est fâché quand même très fort contre cette structure qui crée des conditions dans la délivrance du courrier en créant des situations de outing, c'est-à-dire de révélation de l'homosexualité
tout
des personnes, en n'attribuant pas un numéro personnel de remise de courrier. Bon, depuis, ça a changé. C'est France Terre d'Asile qui a remporté dernièrement le marché, depuis bientôt un an, puisque c'était le 1er janvier, et que de ce côté-là, les choses se sont améliorées, même s'il reste toujours des choses à régler.
Oui, il y a des petites choses quand même.
Voilà.
Enfin, bon,
on va dire que c'est complètement différent. Et cette pratique de outing, pour l'instant, n'existe plus. Donc, toi qui... Tu peux nous dire comment toi, où ils en sont l'un et l'autre, toi qui les as suivis?
C'est-à-dire que Moussa, là, donc il a eu un rejet de l'OFPRA comme la plupart des demandeurs.
Mm-hmm.
Et donc, on a fait un recours à la Cour nationale du droit d'asile, où il sera assisté par une avocate avec qui on a l'habitude de travailler, Virginie Robineau. Mm-hmm. Et donc, il va aller au mois de décembre à la Cour nationale du droit d'asile pour donc contester le rejet de l'OFPRA, et en espérant qu'il aura son statut.
Alors, Oumar et Moussa, on va revenir avec vous pour votre histoire. Toi, Arnaud, tu voulais nous dire un mot sur les avocats et l'importance des avocats?
Non, mais en tout cas, au moins expliquer qu'on travaille avec des avocats à Angers et à Paris, et que c'est une différence dans le cadre de la procédure avec la CNDA, puisque là, on fait un recours. C'est toute la différence avec la procédure à l'OFPRA, puisque là, on a affaire à un officier de protection et le demandeur d'asile doit se livrer. L'accompagnant de Quasar peut être présent lors de l'entretien, ça lui fait un soutien, une présence, mais nous n'avons pas le droit d'intervenir pendant cet entretien, où seulement quelques minutes nous sont accordées à la fin de cet entretien. Quelques minutes qui, fort heureusement, peuvent servir parfois, hein, on en a l'expérience. La différence, c'est que quand on arrive dans le cadre d'un recours, que l'on doit passer devant la Cour nationale du droit d'asile, là, on a enfin la possibilité d'être représenté par un avocat. Et quand même, on peut le dire, nous qui sommes bénévoles dans cette action, le soutien des avocats, il est important. Et puis, c'est aussi très formateur pour nous de travailler avec ces gens. Et fort heureusement, sur le droit d'asile, j'ai l'impression, enfin, pour ceux avec qui on travaille le plus, sont aussi des avocats militants. C'était très bien de citer Maître Robineau, parce que
Maître Julien Rouleau aussi.
Aussi, tout à fait. Ouais.
Et puis d'autres qui arriveront très certainement. En tout cas, c'est c'était bien de les nommer et de dire aussi que vous préparez tellement bien les dossiers que finalement, c'est aussi du temps de gagner pour eux, mais de façon à être plus efficace à l'audience. C'est ça aussi qui... Le travail en partenariat, c'est ça. C'est d'être une grande aide associative et pour pouvoir développer le talent oratoire et présenter le cas de la personne. Oumar et Moussa, pour revenir à votre témoignage, quand vous êtes arrivé à Angers, toi, Oumar, tu as trouvé à te loger facilement, à la différence de Moussa, ou pas du tout?
Oui, comme je l'ai si bien dit, j'étais avec un ami.
Oui.
C'est lui qui m'a hébergé pour un temps chez lui. Mais vu que j'ai commencé la procédure, et puis voilà, il y a des choses qui se sont passées, on n'est pas tombé d'accord, et puis voilà.
Et finalement, tu arrives à Quasar, comment? Tu as eu vent et tu as eu la connaissance de l'existence de l'association, comment?
Du coup, avant que je sois ici, je savais qu'il y, a des, il y avait des associations qui défendaient le droit des LGBT.
Oui.
Mais bon, du coup, à la recherche sur le net, je suis tombé sur le site de Quasar, et puis voilà, j'ai cherché le lieu, je suis venu... Et avec le GPS dans mon téléphone, je suis venu sur le lieu. Après, j'ai rencontré Bernard.
D'accord.
Et il m'a donné un rendez-vous. Après, voilà, on a fait ce rendez-vous.
Maintenant, et puis, la procédure a été lancée. Donc, toi, tu as le statut de réfugié.
Oui. Hein,
donc, là. Toi, Moussa, tu as connu Quasar de la même façon ou avec une approche différente?
Non, moi, je venais à centre-ville. Oui. C'est là que j'ai rencontré un blanc, je l'ai demandé.
Oui.
Après lui, je lui ai demandé si j'ai besoin de commander une association qui accompagne les homosexuels.
Ouais.
C'est lui qui m'a montré maintenant à Quasar, je suis venu maintenant chercher là.
D'accord. Et là, pareil, rencontrer Bernard et puis...
Sûrement, je dormais chez un monsieur.
D'accord. Moi, j'ai une question à vous poser, alors qui est intime, mais vous allez pouvoir répondre comme vous le sentez. Vous qui êtes homosexuel, est-ce que c'est possible ou est-ce que vous cachez le fait d'être homosexuel auprès des autres Guinéens à Angers, que vous connaissez?
Je suis caché.
Tu le caches?
Non, non, non.
Non, tu ne le caches pas?
Non.
Et tu n'as pas de difficultés, tu n'as pas de menaces, tu n'as pas de problématiques particulières par rapport à ça?
Non, pour le moment, ici, quand même, je n'ai rien.
D'accord. Et toi, Oumar?
Du coup, moi, je ne me cache pas tellement, parce que si, il ne faudrait pas que je m'expose aussi, parce que je ne connais pas les idées qui sont derrière les autres.
D'accord.
Donc, je ne sais pas quel esprit ils sont animés d'ici, donc c'est un peu compliqué par rapport à s'exposer. Mais je le vis pleinement, parce qu'actuellement, je suis en couple, donc je me dis, ça va.
D'accord. Et c'est quelqu'un aussi que tu as rencontré sur Angers?
Oui, je l'ai rencontré à Quasar.
Ah bah... On est marieurs maintenant, c'est la bonne nouvelle.
Comme moi aussi.
Toi aussi?
Oui.
Ah bah dites donc, on devrait prendre des actions finalement.
Hein. Et oui, 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 il y a énormément de couples qui se forment dans l'association.
Voilà.
Et Oumar, tu peux dire ce qui s'est passé à la CNDA avec ton compagnon, en fin de compte, puisque vous êtes passés en même temps?
Oui, bah, du coup, on a eu cette chance d'être convoqués à la même heure, dans la même salle.
Ah ouais.
Et l'un après l'autre, donc vraiment ça a beaucoup marqué aussi. Voilà, donc.
Et vous avez été bons tous les deux.
Ah oui.
Non mais c'est alors ça Bernard, c'est rare quoi.
Oui, oui. Alors
hasard ou voulu?
Là, c'était le hasard. D'accord. Mais j'ai accompagné un couple il y a déjà quelques années qui, là, par contre, c'était l'administration les avait reconnus comme concubins, en fait.
Ouais. Hein.
Et donc, ils sont passés en même temps à la CNDA. Et donc, là, c'était vraiment c'était le couple. Hein, voilà.
D'accord.
Donc... Mais là, eux, c'est un peu un hasard. Hein. Oui, c'est effectivement.
Bon, alors. Aujourd'hui, Oumar, toi, tu es réfugié, ça veut dire que tu es entré dans un nouveau temps. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as la possibilité de travailler? Comment ça se passe?
Comme je viens d'obtenir mon statut,
oui.
Nous sommes sur la démarche d'abord pour la domiciliation,
oui.
Après le récépissé.
Oui.
Du coup, comme j'avais un projet d'abord pour se former, et donc je vais essayer d'abord de travailler un peu. Voilà, et puis voilà, se lancer dans la formation et
très bien.
Continuer le projet.
Tu as un projet professionnel? Qu'est-ce qui te plairait?
Du coup, comme je l'ai dit, je veux m'approfondir en informatique.
D'accord.
Voilà,
donc je vais d'abord... tu harcèles Patrick, déjà.
Hein. oui.
Ça va être bien.
Il sera mon concurrent.
Voilà. Et peut-être qu'un jour, tu feras les formations à Quasar.
Oui, ben si.
Ça serait bien.
Ben si, il faut rendre la monnaie parce que voilà, Quasar a été à l'écoute et voilà.
Voilà, mais vous
ça,
avez...
ça m'a beaucoup aidé parce que quand je venais d'arriver, j'avais pas comment dire, le courage d'exprimer ce que j'ai vécu. Parce que je me sentais un peu coupable de ce qui s'est passé. Je me disais que c'est, la faute venait de moi. Ben, au fur du temps, avec le suivi de, du psychiatre Gérard, ça m'a beaucoup aidé à m'exprimer par rapport à ma situation. Donc aujourd'hui, je me dis...
Alors, on explique en deux mots, Gérard.
Alors, Gérard fait partie aussi du pôle droit des étrangers. Il est médecin, il est psychanalyste. Et donc, lui, il accompagne les demandeurs et demandeuses d'asile qui demandent un accompagnement psychologique. Et puis aussi, parfois, les accompagnants du groupe.
D'accord. Alors, le mot de la fin à toi, Moussa, finalement. Toi, tu as une audience CNDA, Cour nationale du droit d'asile. C'est pour quand ?
Décembre.
En mois de décembre ?
Oui.
Donc on dit merde. Hein. D'accord ? Ça veut dire bonne chance. D'accord ? Bon. T'es prêt, hein ? T'es prêt ?
Ouais.
Tu tiens bien ton dossier, ton histoire, tout ça ?
Oui. Hein.
Et on y va, tu fonces. Hein. Et tu reviendras nous expliquer quand tu auras ton statut.
D'accord.
Bon, les gars, on vous remercie. Oumar, Moussa, merci beaucoup. Jean-Luc, Bernard, Arnaud, on salue aussi un autre demandeur d'asile qui est là, mais qui ne souhaitait pas prendre la parole, et c'est un droit absolu. On salue Nicolas aussi, qui est toujours un apport aidant ici à Quasar. Et puis, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Juste avant de refermer la page de Quasar en hier, c'est l'agenda.
Radio G 101.5 FM.
Bon, on le fait court, hein. En tout cas beaucoup plus court que la fois précédente, ne vous inquiétez pas. Mais vous le savez, je ne vais pas vous raconter d'histoire, lundi prochain, c'est exactement le 14 novembre, et c'est le ciné-débat, on en a parlé très longuement, de Enfants de malheur, le documentaire de Quasar signé Arnaud Villemin, au Folies Angevines, 6 avenue Montaigne, 19h30, vous arrivez un petit peu avant évidemment. Si vous voulez assister, vous allez sur le site de Quasar, sur la page dédiée à cet événement. Et il y a un lien pour vous inscrire. L'entrée est gratuite, mais sur condition d'inscription via le lien qui est proposé par les Folies Angevines. Les permanences samedi 12, 19, 26 novembre de 17h à 19h. Et puis samedi 19, c'est Transat de 15h à 17h pour et par les personnes transgenres, agents et non-binaires. Dimanche 20 novembre, journée internationale du souvenir trans. Vous suivez les réseaux sociaux, tous les détails vous seront donnés. Samedi 26 novembre, permanence 15-25 à 15h. Et puis samedi prochain, à 13h30, visite de l'expo Gravity à la collégiale Saint-Martin. C'est avec les jeunes, 15-25. L'émission s'achève, c'était la cinquième de la saison 22-23. On vous souhaite évidemment une très belle soirée. On vous souhaite surtout d'être attentif à l'actualité, de rester en lien. Et puis si vous avez besoin, vous poussez la porte de Quasar au 15 rue de Jérusalem. Le jour où on sera avenue, on en reparlera. Allez, bonne soirée, à dans 15 jours.
Radio G, 101.5 FM. Yes.